France Culture.
Plan large. Le rendez-vous cinéma sur France Culture, Antoine Guillot.
Plan large en direct du Festival international du court-métrage de Clermont-Ferrand avec Alexandre Dosti, Margot Fournier et Lucas Minier et aussi Mathieu Macheret. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Plan Large en direct et en public, nombreux de la Comédie de Clermont-Ferrand en ce premier jour du Festival international du court-métrage de Clermont-Ferrand, la plus importante manifestation cinématographique mondiale consacrée à ce format, là où on peut voir les meilleurs films du moment, où s'inventent de nouvelles formes et naissent de futurs grands et grandes cinéastes. Pour preuve, trois des invités du Plan Large que nous avions enregistré ici même il y a un an se retrouvent nommés pour les prochains Césars. Il s'agit de Paul Kermarek pour Ni Dieu ni Père et de Nathalie Mousteata et Alexandre Singh pour Deux personnes échangeant de la salive. Ces deux derniers sont même allés jusqu'à intégrer la très convoitée ultime shortlist des Oscars à Hollywood avec Isabelle Huppert et Julianne Moore en bonne fée. On n'y est pour rien, mais on ne s'en réjouit pas moins et on leur dit bonne chance pour franchir la dernière marche. On souhaite la même reconnaissance et le même succès à nos trois invités de cette année. Il y en a en tout cas une qui n'a pas attendu l'année prochaine pour être nommée dès à présent au César dans la catégorie meilleur film de court-métrage documentaire. On va en discuter de cette dénomination. C'est Margot Fournier qui, après avoir parcouru toute la planète festivalière à peu près avec Au bain des dames, se retrouve cette année en compétition nationale à Clermont-Ferrand. Tout comme à ses côtés Lucas Minier et en studio à Paris, on expliquera pourquoi Alexandre Dosti, réalisateur respectif du Couteau et la Plaie et de Boa. Trois films très différents que réunissent pourtant une attention commune au corps et aux questions contemporaines et une volonté manifeste de nous montrer d'autres images que celles qui nous encombrent les yeux et les cervelles, loin des appartements parisiens auxquels on réduit trop vite le cinéma français d'aujourd'hui. Deux des films qui nous occupent aujourd'hui ont en effet été tournés pas loin d'ici, en Auvergne, et l'autre à Marseille. On se réjouit de vous les faire rencontrer. En fin d'émission, Mathieu Macheret nous emmènera lui en Indonésie, dans une île où s'affrontent et s'attirent soldats japonais et prisonniers britanniques à l'occasion de l'édition en Blu-ray du Furio de Nagisa Oshima. Mais pour l'heure, tout commence dans un lieu improbable par une parabole toute biblique.
Si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur la montagne pour aller la chercher ? L'Évangile dit oui, puisque ce n'est pas la volonté de notre Seigneur qui est dans les cieux qu'il ne se perde un seul de ses petits. Mais moi, je crois que ce berger commet une erreur. La montagne est dangereuse. Il risque sa perte en poursuivant la bête égarée. Et un troupeau sans berger est perdu.
Bonjour Alexandre Dosti.
Salut Antoine.
Vous êtes dans notre studio à Paris. Les facéties de l'aviation vous ont fait rater votre correspondance pour Clermont-Ferrand, mais vous avez trouvé le chemin de la maison de la radio et on s'en réjouit. Alors pour celles et ceux qui n'ont pas l'image, nous sommes non dans une église, mais dans une supérette. L'homme qu'on suit dans un travelling est le père supérieur d'un ordre monacal et celui à qui il s'adresse et à qui il adresse son sermon, c'est un jeune moignon. Il s'appelle Léonide. Alors sans vouloir vous réduire à votre nationalité, en vous entendant parler nos auditrices et auditeurs se rendront vite compte que vous êtes tout à fait québécois. Est-ce que vous pensez que votre film traduit une sorte de dualité propre à votre pays? On sait le Québec profondément catholique, même s'il s'est évidemment largement sécularisé depuis 50 ans. On le sait aussi profondément hédoniste. Il suffit de se promener dans les rues de Montréal au printemps quand la neige commence à fondre. Et alors, en été, je ne vous en parle pas, pour voir la fête des corps que peut être la ville. Il y est question dans votre film de spiritualité, de tentation, de faute, de culpabilité, de honte, donc toute la base du catholicisme, mais aussi d'exaltation du corps bodybuildé, Alexandre Dosti.
Ouais, ben là, je serais bien mal vu de pas commencer ça avec un bon tabarnak.
Voilà, merci.
Voilà qui est fait. Ben c'est une bonne question. Je sais pas si je me référais à ce passé religieux que vous évoquez, qui a été très présent au Québec. Je pense que c'était plutôt un prétexte, une base commune de récit, celui de la Bible, de la religion. Pour parler de l'aliénation, pour parler d'un rapport au corps qui est trouble, et pour parler aussi d'envie, de besoins, de désirs qui sont réprimés. Puis je pense que ça se limite pas juste au Québec, puis pas juste à la religion catholique rendue là.
Alors, on peut dire, effectivement, c'est l'histoire d'un jeune homme qui voudrait n'être qu'esprit et qui découvre qu'il a un corps et qu'il peut s'en servir.
Absolument, ouais. Puis quelque part, c'est, je crois que c'est l'histoire de plusieurs personnes, hein, en 2026. Bon Dieu, qu'on en passe du temps dans nos têtes à oublier qu'on a un corps, à pas savoir quoi faire avec. Et pourtant, on est habité par une tonne de pulsions, d'envies qui sont canalisées. S'ils sont pas canalisés par le corps, ben elles sont pas du tout canalisées. Hein, et pourtant, elles souhaitent s'exprimer, ces forces-là en nous. Puis j'avais envie de parler de ces forces-là.
Alors, si ce jeune moine découvre qu'il a un corps, c'est qu'au hasard de ses pérégrinations, il va découvrir une salle de sport avec un splendide boa, vraiment l'animal, le serpent, symbole biblique, là encore, en vitrine. Et puis derrière, il y a des hommes qui s'adonnent à la musculation avec des gros plans sur leurs muscles qui se raccordent à des gros plans sur ce boa. Là où votre film est très ambigu, et c'est un de ses grands intérêts, c'est qu'on ne saurait dire si votre film est une histoire d'émancipation ou de damnation, et peut-être que c'est la même chose.
Absolument. Pour moi, ce l'est, en fait. Cette ambiguïté-là entre l'émancipation et la damnation, elle se retrouve dans chacun des courts-métrages que j'ai fait, Clôture Mutant et Clôture Je finirai en prison que j'ai fait avant. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, ces moments de grâce-là, comme par exemple dans Boa, c'est un choc esthétique qui vient réveiller toutes ces forces à l'intérieur du personnage, ce rappel qu'il existe un corps, qu'il existe autre chose, et j'aime que ce soit pas tranché, clair. J'en ai un peu, en fait, contre cette époque où la culture s'empresse de prescrire. Moi, ça m'intéresse pas. C'est pas les œuvres qui m'intéressent. Donc, cette ambiguïté-là, à savoir si cette rencontre-là, ce choc esthétique-là, ce retour au corps va être bénéfique au personnage ou va le donner, pour moi, l'intérêt est dans cette ambiguïté-là et dans un geste qui ne s'arrête pas, qui ne s'arrête jamais, en fait. L'histoire, elle continue bien après le générique.
C'est un film qui, effectivement, ne tranche pas non plus entre les genres. Il y a du drame gothique dedans, de la fable religieuse, il y a du gothique aurore, je l'ai dit, mais ça pourrait être aussi du drame psychologique, du thriller. Comment est-ce que vous avez navigué et vous vous êtes amusé aussi avec tous ces genres?
Ouais,
Alexandre Dosti.
Ouais, j'ai eu beaucoup de plaisir à écrire ce film. Il est jailli, tu sais, la forme toute particulière du film, elle m'est venue dès que le film est apparu en tête. Je me suis empressé d'écrire une première draft de cette histoire. Puis, tu sais, ça l'a quand même. J'ai préservé ça tout du long. J'ai pas vraiment réfléchi au mélange des genres. Bien sûr qu'après, on veut faire financer le film, là, il faut comme expliquer, vendre le truc, mentir s'il faut. Et je le fais avec plaisir pour faire les films. Mais en vérité, ce mélange-là, il a pas été réfléchi. Puis j'ai aimé approcher ce film dans une liberté guidée par l'intuition, l'inconscient, puis je trouvais que cet inconscient qui me guidait à raconter Boa parle du film, parle de Léonide, tu sais, donc j'ai pas voulu trop m'interposer là-dedans, j'ai pas voulu trop réfléchir ça.
Alors cette écriture, vous l'avez faite pas très loin d'ici. Vous étiez en résidence à Moulins, dans un programme de résidence du Festival de court-métrage de Clermont-Ferrand. Et c'est vrai que quand on regarde votre générique, il y a plusieurs noms qui seront familiers à nos auditeurs et auditrices de la région. Lavaudieu, Pébrac, Saint-Ile-Pise, Issoire, Chamalière même et Serra. Alors est-ce que vous avez profité de votre écriture pour repérer un peu les lieux, puisque le film a été tourné également dans la région, dans des monastères et des églises et des rues qui, là encore, sembleront sans doute familières à beaucoup de spectateurs et de spectatrices.
Ouais, j'ai eu le grand privilège d'écrire, développer ce film-là en Auvergne et de le tourner aussi dans la région et de travailler avec des talents de la région. Il y a beaucoup d'Auvergnois dans le film, autant devant que derrière la caméra. Et pour moi, j'avais un désir d'aventure totale avec ce film-là. J'avais non seulement envie de, faire la super résidence qu'offre le festival pour écrire le truc, mais j'étais comme, tant qu'à faire ça, je veux qu'il y ait une empreinte de la région, je veux qu'il y ait une empreinte française dans ce film-là, je veux le faire ici, ce film-là. Et on le voit, hein, le film est composé de façon à ce qu'on puisse bien apprécier ces décors-là, le patrimoine bâti du coin, ces paysages, l'église de Clermont-Ferrand, tu sais, tout le monde qui vient à Clermont présenter son court-métrage, qui a cette chance-là, se fait parler de Clermont, de ses bijoux, de l'église en pierre volvique, puis moi j'étais comme, il n'y a pas question que je fasse un film à thématique spirituelle, puis qu'il n'y ait pas une shot de cette fameuse église. Donc ouais, je suis venu ici avec un désir de vraiment être au service en fait de la région. Ouais.
Alors Lucas Minier, vous avez vous aussi tourné dans la région, on va en parler dans un instant. Vous êtes aussi, on le dira, chef opérateur, directeur de la photographie de profession. Comment est-ce que vous avez vu l'image de ce film qui, alors, pour le coup, rend hommage effectivement à ce patrimoine bâti, comme dit Alexandre Dosti, mais aussi à la lumière naturelle, ou en tout cas au sentiment qu'on peut en avoir, en tout cas pour tout ce qui se passe dans les églises, puisque ça s'oppose à la lumière très artificielle, en revanche, de la salle de sport.
Bah justement, je trouvais ça très intéressant que tu parles, Alexandre, et bonjour du coup.
Salut.
Que tu parles de choc esthétique, parce que c'est vraiment l'intuition que j'ai eue, enfin l'impression forte que j'ai eue en regardant ton film, dans le sens où tout le début, j'avais la sensation d'être presque dans une autre époque, et donc quand au fur et à mesure de sa traversée, quand on découvre les lieux en dehors de ce monastère dans lequel il vit. On assiste vraiment à un choc, donc je trouve intéressant que tu appelles ça comme ça. Et j'aimerais bien peut-être t'entendre là-dessus, justement. Est-ce que vous avez travaillé, comment vous avez travaillé le contraste entre les deux, au-delà de cette lumière rose fluo
Ouais, ben écoute, il y avait vraiment un désir de tu sais, ce que tu racontes, avoir l'impression qu'on est dans un film d'époque au début, puis finalement basculer, c'est important pour moi parce que, tu sais, c'est un film de point de vue, c'est le point de vue de ce moine-là qui va justement, qui va s'enfiévrer et basculer, puis j'avais voulu donner au début une impression d'équilibre, on se pose dans une époque, il se passe pas grand-chose, il y a un certain calme, tout est à sa place. Puis, tu sais, les lumières sont naturelles, c'est des tableaux, tu sais, c'est assez composé. Puis plus on avance, ben du moment en fait où on se transporte en ville, puis que là on va voir le gym, ben là tout se met à évoluer. Fait qu'il y a une évolution de la lumière, il y a une évolution chromatique, des couleurs qui se mettent à saturer, il y a une évolution de la caméra qui là tout d'un coup les tableaux commencent à bouger. On va avoir de la caméra épaule à certains moments, on se rapproche de plus en plus du personnage. Fait que ouais, c'est ça, tu sais, mais t'as raison, tu sais, ce choc esthétique là il est pas juste dans la perception du personnage, mais j'essayais de l'installer dans la perception du spectateur.
Margot Fournier, on va parler avec vous tout à l'heure de votre film Aux mains des dames. C'est presque l'exact opposé de ce Boa, puisque Boa, c'est vraiment des hommes entre eux, que ce soit dans le gym, comme vous dites, Alexandre Dosti, ou dans ce monastère. Comment l'avez-vous vu, ce film ?
Alors moi, je l'ai découvert au festival de Trouville, en septembre. Et je me souviens que j'avais... le souvenir, en tout cas le principal souvenir qui m'en reste, c'était vraiment ce choc esthétique dont vous parlez, de cette place de toute la religion aussi qui écrase ce petit personnage qui est tout petit au début, en fait, écrasé par parce qu'il est pas si petit après quand il est filmé en train de pousser de la fonte, qui est tout petit au début face à cette architecture. Enfin, moi j'aime beaucoup filmer l'architecture au cinéma, en l'occurrence ça se voit pas dans mon film, mais c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Et au plus il évolue, ce personnage, au plus il prend de la place à l'image et plus l'image change. Donc j'ai trouvé que en fait, presque plus qu'au scénario, c'était vraiment dans la technique qu'on sentait passer ce changement d'état d'esprit du personnage.
Il faut dire que ce petit personnage est joué par Dimitri Doré, qu'on avait adoré dans le Bruno Rédal de Vincent Leport. Vincent
Leport
était venu en parler dans Plan Large. Comment est-ce que vous avez joué justement avec cette présence et cette fragilité que peut avoir Dimitri Doré?
Dimitri, c'est un acteur incroyable, absolument dédié. J'ai travaillé avec quand même pas mal d'acteurs, mais de rencontrer quelqu'un aussi game, comme on dit au Québec, sans peur, c'est toujours un privilège d'avoir quelqu'un aussi qui comprend ce qu'on veut faire avec un film qui, en l'occurrence, est plutôt trame dans l'abstraction, veut rester ambigu, où il y a pas de dialogue aussi, hein. Puis c'est tourner un film sans dialogue, moi en tout cas je l'ai appris là, c'est incroyable à quel point le scénario ou ce qu'on en comprend pivote sur le dialogue. Et quand on n'a pas ça, il faut trouver d'autres façons de raconter, et on a besoin d'un acteur comme Dimitri qui lui est physique, qui a une maîtrise de ce corps, de ce regard, de tout ce qui peut parler en dehors de la voix, même s'il le fait très bien. Ça a été vraiment, c'était la clé de voûte en fait de ce projet-là. Ça aurait pas été possible, je pense, de partager l'histoire de Léonide sans Dimitri Doré.
Merci Alexandre Dosti. Boa est en compétition nationale au Festival international du court-métrage de Clermont-Ferrand. Prochaine projection demain à 11h30. En principe, vous serez arrivé à Clermont-Ferrand dans la salle Cocteau de la Maison de la Culture. Vous écoutez France Culture, Plan Large et en direct et en public de la Comédie de Clermont-Ferrand. Restez avec nous, Alexandre Dosti, parce que dans le même programme que ce Boa, c'est le programme F3, on trouve également ceci, tourné lui aussi, donc pas très loin d'ici.
Allez,
allez!
Ah, quoi, pas faire?
J'attends les amandas.
Ouais, c'est les amandas.
Mange pas la ficelle. C'est pas bon, la ficelle, pour les vaches.
Oh. Allez! Fous pas de richade.
Eh, ouais.
Eh, écoute, ma cour.
Oh, ça va être subi, mais elle semblante, hein.
Travaille ou pas tous les jours? C'est où le bois que nous aimons?
C'est au début de votre film Le couteau et la plaie. Luc Aminier, un jeune adolescent, aide un vieux paysan à conduire ses vaches. Arrive la grand-mère de ce jeune homme. Le paysan a besoin de ses services de rebouteuse car ses vaches ont un problème. Peut-être à cause de ses militaires et de ses hélicoptères qui, dans le coin, recherchent un soldat étranger disparu. Si je précise tout ça, c'est qu'on ne comprend pas forcément ce qu'ils viennent de raconter dans cet extrait. Quelle langue parle-t-il?
parlent-ils ?
Alors là, ils sont en train de parler un patois auvergnat. Et en fait, il faut dire et avouer en direct que ce qui est dit à ce moment-là dans le film a été sous-titré, mais ça ne correspond pas du tout à
il me
à
semblait aussi.
Réalité. Donc je l'ai fait avec leur consentement, évidemment, pour essayer d'emmener le film à un autre endroit. Mais en fait, ils racontent des banalités en réalité. Je me suis dit que ça pouvait apporter une couche supplémentaire au film sans heurter les quelques personnes qui parlent encore cette belle langue.
On parlait avec Alexandre Dosti de comment les lieux qu'il a vus pendant sa phase d'écriture dans la région l'ont inspiré. Vous, c'est aussi un film pensé à partir d'un lieu, à partir d'une maison ?
Oui, tout à fait. Donc c'est une maison qui n'est pas très loin d'ici, qui est à 1h30 dans la commune de Croix, dans le hameau de Fouilla, pas très loin de Bord-les-Orgues. Et en fait, c'est une maison qui est au bout d'un chemin, tout près de chez un ami à moi, chez qui je vais très régulièrement, qui m'a fait rencontrer l'Auvergne. Et c'est une maison en fait, devant laquelle on est passé un certain nombre de fois, qui était fermée à clé et qu'on n'a jamais pu pénétrer, si ce n'est par la petite ouverture de la... Il y avait une espèce de boîte aux lettres dans la porte et qui nous laissait apercevoir quelques objets... restant, mais en fait c'est une maison qui a été désertée il y a une quinzaine d'années, on l'a su après, et un jour elle a été ouverte miraculeusement, sûrement pour un cambriolage, et donc on l'a enfin découverte. On était assez déçus d'ailleurs, et on a fini par j'ai fini par écrire un film pour ce lieu, et on l'a entièrement redécoré du coup pour le tournage.
Votre film met en scène précisément cette opposition entre l'extérieur et un intérieur peut-être fantasmé, entre un extérieur qui serait celui de la violence et un intérieur qui serait celui de du mystique, de la tradition ésotérique. Comment est-ce que vous avez pensé votre mise en scène à partir de ça ? Parce qu'il y a beaucoup de surcadrage, notamment sur des fenêtres, sur des portes, sur des effets de seuil.
Oui, tout à fait. Bah, je pense que c'était façon de filmer. Après, le dispositif du film fait que en fait la réflexion autour des plans et autour d'un découpage, elle a pas vraiment été faite en amont. On est plutôt parti on a joué plutôt sur un principe d'improvisation avec les comédiens, et ce qui fait en fait que je me laissais porter par leur déplacement, par ce qui se passait. Plus que par des réflexions en amont du cadre, mais j'avais en tête à la base effectivement ouais, des effets de surcadrage, aussi pour faire habiter les murs de cette maison et tout ça.
Alors si l'improvisation de la part de vos personnages, c'est que comme beaucoup aujourd'hui, on ne saurait faire la différence entre ce qu'il peut y avoir de fiction et de documentaire dans votre film. Ça commence par un plan très documentaire, d'ailleurs, de cet adolescent Jason, je crois, si je me souviens bien, qui coupe du bois avec des bûcherons. C'est une manière de l'installer, parce qu'on sait que dans le court-métrage, on n'a pas tous ces temps d'exposition qu'on peut avoir dans un long-métrage. Il fallait le poser comme ça, directement, ce personnage.
En fait, cette séquence, elle n'était pas écrite, elle n'avait pas forcément une fonction très importante dans le scénario. Et il se trouve que ce jeune comédien, c'était sa première expérience, veut devenir bûcheron. Et donc, c'était une manière, au-delà du film et de ce que ça allait pouvoir créer comme promesse de cinéma, de le mettre en confiance aussi avec la caméra. Et c'était une séquence qui était super, parce qu'on a sollicité plein de personnes qui vivent dans les alentours. Et en fait, c'est intéressant que vous parliez de la distinction documentaire et fiction, qui est quelque chose effectivement d'assez passé, parce qu'on a tourné le début du film dans un ordre chronologique, en tout cas pour le début des séquences, pour le tout début du film. Et donc, c'est vrai qu'on a commencé par cette séquence de bûcheronnage, suivie de celle qu'on a entendue dans l'extrait, qui amenait quelque chose de très concret matériellement à mettre en place, et qui faisait que les personnages se comportaient très naturellement alors qu'ils ne jouaient pas, quoi. Et donc, sur le tournage, le monteur du film était déjà présent, et en fait, on avait choisi de commencer à monter et assembler le film en parallèle du tournage. Et on avait l'intuition au tout début qu'on allait peut-être sortir avec un film qui allait être presque un documentaire et ça a été complètement chamboulé à partir du moment où les comédiens professionnels sont entrés en jeu, mais voilà, ça faisait partie de nos interrogations en tout cas.
Alors je vois Margot Fournier à côté de vous opiner à chacun de vos propos. Ces questions de documentaire, de fiction, ça fait longtemps qu'elles nous semblent un peu dépassées dans le cinéma. En tout cas, on en parle beaucoup dans Plan Large. Comment est-ce que vous l'avez vu, vous, ce film, Le couteau et la plaie ?
Bah, effectivement, moi, je pensais que c'était un documentaire au début, que ça allait être un documentaire. Et moi, ça m'intéresse toujours quand je vois des films, justement, qui sont à la lisière entre... Enfin, en tout cas, pas à la lisière, mais qui s'embarrassent pas d'eux, en fait, plutôt. Parce que je pense pas que ces films-là cherchent à l'être. Le mien, pareil, on cherche pas à être un docu-fiction. Mais en fait, on s'embarrasse pas d'un cadre préconçu. Et on fait et on voit à la fin. Et à la fin, on nous donne un nom, une étiquette, mais qui n'est pas préalable au geste.
Lucas Minier, votre film, effectivement, joue beaucoup dessus, mais aussi sur cette volonté, c'est ce que je disais en préambule, de donner peut-être une autre image, alors pour le coup, une autre image de la campagne, qui ne serait ni cet endroit un peu verdoyant où les citadins vont passer leurs loisirs, ni le lieu du drame, des vaches folles et autres problèmes sociaux. Vous avez eu manifestement cette volonté. Vous-même, vous ne venez pas d'Auvergne, mais enfin, vous êtes né, je crois, dans la Sarthe, dans un petit village près d'Alençon. Donc, vous montrez ce que vous connaissez.
Tout à fait. J'ai la sensation, en fait, que depuis quelques années, il y a une espèce de regain comme ça des représentations de la campagne, mais plutôt dans un biais qui la romantise, en fait, toujours avec des types qui ont le crâne rasé, qui ont des débardeurs, des grosses chaînes et qui font de la moto. J'ai l'impression que les films se reconnaîtront. Et non pas que je veuille les critiquer, je dirais que j'avais envie de donner en tout cas une représentation qui était différente, qui n'est pas nécessairement plus réaliste, mais en tout cas qui était la mienne et je pense qu'elle était imprégnée d'images que j'ai vues, de choses que j'ai vécues, etc. Et voilà.
Alexandre Dosti, vous êtes toujours avec nous ?
Toujours là.
Alors vous aussi, vous venez d'un petit village, il me semble, dans la Beauce, non pas française, mais québécoise.
Ouais.
Comment est-ce que vous êtes plongé dans ce territoire que peut-être vous avez traversé lors de vos repérages, d'ailleurs, pour Boa ?
Ouais, ben ça m'est paru familier autant dans mes repérages pour Boa que la maison, en fait. Moi, je viens carrément de ce coin-là. J'ai eu ma première arme à feu, je l'ai eu, j'avais pas 10 ans. Tout ça, ça me parlait, évidemment. Et je trouvais que c'était quand même... J'ai aimé le côté sensible du film de Lucas, en fait. Tout ce côté un peu mystique, la présence et l'importance des aînés aussi dans le... comment façonner l'imaginaire de l'enfant. Moi, c'est le bout du film qui est venu le plus me toucher puis qui m'a plus rappelé ma Beauce natale. Je trouvais ça très beau.
Oui, parce que c'est un film, on n'a pas voulu trop le raconter d'ailleurs, parce que c'est pas vraiment un film à scénario avec un programme affiché, mais on peut dire que c'est peut-être un film sur l'apprentissage à la fois de la masculinité par la violence, mais par la violence qui vous est imposée, mais aussi par la transmission d'un savoir, le fameux savoir occulte de la grand-mère, Lucas Minier.
Oui, je pense que le cinéma, en fait, fonctionne beaucoup à partir du désir des personnages, et c'est souvent ça qui promet des histoires, leur quête, le chemin qu'ils vont parcourir pour assouvir leur désir. Et en fait, là, j'ai la sensation peut-être d'avoir fait un film qui parlait plus de croyance que de désir, et donc effectivement qui est un peu plus latent, disons, d'un point de vue scénaristique, et qui fait beaucoup plus appel à la... J'espère à la sensibilité des spectateurs et spectatrices, à des impressions liées aux phénomènes qui sont filmés. Voilà.
Alors, une de vos références, il me semble, où vous parliez un peu de cette manière de suivre vos personnages. Parfois, on a le sentiment même qu'ils sont filmés de loin au téléobjectif, que quelqu'un les surveille, ce qui rajoute de l'inquiétude à ce qu'on peut voir. Mais sans doute, et je crois que vous avoir lu quelque part que c'était une influence importante pour vous, et ça plaira à Alexandre Dosti, sont des Québécois.
Tout à fait. Enfin, moi, je suis assez matrixé par Pierre Perrault et Michel Brault, j'imagine. Enfin, je ne sais pas si ça te parle, Alexandre, aussi.
Ouais, des monuments, absolument.
Voilà, et donc notamment, bah, La Bête Lumineuse, qui est un de mes documentaires préférés. Et en fait, je trouve qu'il y a tout un travail, au-delà de la question du documentaire, de la fiction, il y a tout un travail aussi dans l'approche du corps de l'opérateur ou de l'opératrice et de la façon dont il va matérialiser des relations, à la fois par la façon dont il se comporte, par le où est-ce qu'il se place par rapport à la situation qui est filmée. Et c'est pour ça que je reviens sur ce que je disais au début de l'émission, mais que j'ai préféré privilégier une improvisation aussi de ma part en tant qu'opérateur plutôt que de prévoir les plans qui allaient être filmés.
La belle s'en va au jardin des amours, c'est pour y passer la semaine. Son père qui la cherche partout et son amant en est en peine. Y a un berger là-bas dans la prairie, s'il l'a vu, qui nous l'enseigne. Berger, berger, mon doux berger, l'avez-vous pas vu, la beauté même? De quelle couleur était-elle habillée? Est-elle en soie ou bien en laine?
Merci Luc Minier. Le couteau et la plaie, dont on vient d'entendre la chanson très belle qui accompagne le générique de fin. Je l'ai dit tout à l'heure, il est en compétition nationale au Festival international du court-métrage de Clermont-Ferrand, programme F3, à voir toute la semaine évidemment. Prochain rendez-vous demain à 11h30 à la salle Cocteau de la Maison de la Culture. Et vous êtes doublement présent à Clermont-Ferrand cette année, puisque vous avez aussi signé l'image de votre camarade de promotion David Lynch, quel beau nom, promotion 2025 de la FEMIS, Nadir Bouslama, pour Sous les ruines. Vous écoutez France Culture, plan large est en public, toujours de la comédie de Clermont-Ferrand. Et je ne sais pas vous, mais on prendrait bien le soleil en ce moment sur une plage au bord de l'eau, par exemple, en discutant entre vieilles copines.
Nathalie, la copine à Justine, tu vois pas qui c'est, toi?
Ouais, mais elle fait trop. Hein. Non, ouais, personnellement, moi, c'est trop.
Non, moi, personnellement, là.
Moi, personnellement,
c'est. Parce que personnellement, je vais te le dire, c'est à son âge qu'il faut commencer. Elle a que 51 ans, c'est pas à l'âge qu'elle a joué, elle, qu'il faut le faire.
Ça, elle a raison.
Je suis désolée.
Et dans 10 ans, elle va le refaire.
Il y en a 20 ans, ils le font.
Eh bien, elles ont raison, elles font
une petite nièce, 28 ans, elle a déjà.
Oui, mais tu sais ce que c'est. Elles ont raison. Les influenceuses à Dubaï. Ouais. S'appelle là.
Nabila. C'est elle qui a commencé à les
amener. Ils ont des sous, elles peuvent le faire.
Ah oui, c'est sûr.
Moi, personnellement, même si j'aurais des sous, je le ferais pas.
Ah, moi, si j'avais des sous, si j'avais des sous, je serais pas dans l'état où je suis. Moi, je me vois comme je suis, oui, comment j'ai changé.
Mais de toute façon, toi, tu es mal dans ta peau déjà, c'est pour ça que tu te vois comme ça.
Ah ben oui.
Voilà, parce que tu es mal dans ta peau.
Après, on est comme on est. Voilà.
On est comme on est, mais si tu peux t'arranger.
Il faut s'arranger.
Voilà.
Et se regarder dans la glace.
Non,
et
moi, je me regarde pas.
Moi, je me regarde. Non. Et je dis quand même, Carmen, pour ton âge, eh ben, tu es pas mal.
Non, moi, non.
Tout simplement.
Alors,
je me fais des compliments.
Moi, bien,
ma foi, tout à l'heure, je vais avoir 73 ans. Attends.
Voilà. Ouf là.
Elle s'appelle Joël, mais il y en a deux. Elle s'appelle aussi Régine, Carmen et Magali. Et à Marseille, on les appelle des Bazarettes. Elles sont toutes septuagénaires. Mais le bain des dames que vous prenez au pied de la lettre dans votre film, Margot Fournier, c'est avant tout, précisons pour les moins marseillais de nos auditeurs, que c'est le nom d'une plage. Une plage en plein centre-ville ou presque, pas loin du Vieux-Port, sur l'anse du... On n'est pas très loin quand même, hein. Vous allez nous préciser. En tout cas, la preuve qu'on est à Marseille, c'est que le film commence par un graffiti sur lequel on lit « Nique Paris », donc c'est très clair. Et c'est le lieu unique de ce théâtre tragicomique qui est votre film du même nom, donc « Au bain des dames ». Alors, vous êtes marseillaise de naissance, Margot Fournier, cette femme qui parle sur la plage. Est-ce que ce sont des personnes que vous avez longtemps regardées en vous disant « Mais qu'est-ce qu'elles peuvent se raconter ?»
Oui, complètement. Et à la fois, c'est faux parce que j'ai ma mère, j'ai ma tante et en fait, c'est aussi les femmes de ma famille. Mais en fait, quand c'est des autres personnes qui appartiennent pas à la famille, on se demande toujours qu'est-ce que ces gens peuvent se dire et on a moins de risques qu'on voit chez soi, je pense. Donc voilà, donc je me suis dit, mais qu'est-ce que tous les jours, du lundi au dimanche, en été, en hiver, qu'est-ce qu'elle trouve encore à se dire, en fait, vu qu'elles sont tous les jours la veille, déjà ensemble, qu'est-ce qu'il y a de nouveau à raconter ?
Comment est-ce que vous les avez abordées ? Comment est-ce que vous les avez convaincues de faire un film avec vous ?
Bah, en fait, je pense que je les ai convaincues en même temps que j'ai essayé de me convaincre moi-même. Parce qu'en fait, j'ai eu l'idée, un peu une image comme ça. Enfin, j'ai eu très envie de faire ce film en me disant, bon, allez, ça suffit. Maintenant, t'arrêtes de chercher des excuses pour pas en faire un. Et tu vas le faire. Et donc, j'ai cherché dans mes notes de mon téléphone. J'ai vu cette note qui parlait d'elle. Et je me suis dit, bah, si j'y vais pas maintenant, j'irai pas. Cette image, elle correspond à tout ce que j'aime. Tu parlais tout à l'heure une autre image de ton chez-toi. Ça me permettait de parler des femmes de ma vie, montrer une autre image de mon Marseille, qui est non pas romantisée, mais complètement sensationnalisée. Entre drogue, calache, meurtre en banlieue. Enfin voilà. À chaque fois qu'on parle de Marseille, c'est une image horrible, alors que ces femmes sont là et qu'il y a plein d'autres choses très belles à Marseille dont on parle jamais. Donc en fait, je me suis dit, ok, je vais le faire. Ça parle de toutes ces choses-là. Et en plus, je me suis rendu compte au fur et à mesure que c'était très politique. Et qu'en fait, en réfléchissant si ça avait déjà été fait, ça l'était pas. Mais j'ai eu du mal à me rendre compte que j'allais faire du neuf avec du vieux, quand même. C'était pas évident à la base. Donc, j'ai commencé à me dire, je vais faire ce film, je vais chercher des comédiennes. Je pense à Ariane Ascaride. Et puis plus rien. Et en fait, je me rends compte qu'elle a même pas d'accent. Et je me dis, mais en fait, elles n'existent pas, ces femmes. Elles n'existent que dans la réalité. Donc là, je reviens sur docu-fiction. Je me suis dit, bah, soit j'y vais pas. Et je me suis dit, vas-y, j'y vais. Et ce jour-là, j'étais par là. Bon, bah, ça a été le Bain des Dames. C'est pas du tout par chez moi. Moi, j'habite justement plutôt vers le Vieux-Port. Et le Bain des Dames, c'est plutôt vers les Calanques. C'est Pointe-Rouge.
C'est entre les deux, voilà.
C'est de l'autre côté. Et en fait, il pleuvait ce jour-là. Et donc, en fait, je vois deux femmes monter l'escalier. Donc, Joël Larousse et Régine, avec Pastis, le chien. Pareil, ça, si j'avais voulu l'inventer en fiction, j'aurais pas réussi. Et je me dis, ok, c'est elle. Enfin, je sais pas, on a parlé tous les trois, je pense, du caractère intuitif, parfois, de la chose. Et je me suis dit, bah, c'est elle. Voilà, on parle du coup de foudre amoureux. Là, ça a été un coup de foudre cinéma pour elle. Je me suis dit, c'est elle et personne d'autre. Je suis allée les voir, j'ai dit, bon, bah, c'est pour un casting. Et Joël a secoué ses cheveux sur le côté. Elle m'a dit, d'accord, c'est-à-dire. Voilà. Et en fait, je lui ai dit, bon, je ne suis pas une grande production, attention, voilà, il n'y a pas d'argent, j'étais seule à ce moment-là. Donc, voilà. Et elle m'a dit, bah, reviens demain. Et du coup, bah, j'ai dû revenir le lendemain et c'est comme ça que le film a commencé.
Alors, ce qui est très politique aussi, c'est, j'imagine, le rapport que vous avez noué, presque contracté avec elle, puisque. Quand on filme des personnes sur une plage, ben on se pose la question de comment, qu'est-ce qu'on va filmer, peut-être même sous quel angle. Alors, quel contrat moral avez-vous passé avec elle ?
Ben, en fait, le contrat, il a été pareil. Ça s'est fait de manière assez naturelle. En fait, moi, malheureusement, je ne sais pas. Je ne suis pas chef-op. Je n'ai pas cette chance de savoir faire de l'image. Donc, j'ai appelé à la rescousse un ami à moi qui est chef opérateur et réalisateur. Et je lui ai dit, t'as une caméra, voilà, t'as deux micros, descends, je viens te chercher. Enfin, on y va. Et donc, on est arrivé avec cette caméra. Donc, au début, on a juste essayé de voir si ça allait déranger. Et en fait, on leur a demandé, elles étaient toutes en monokini, si c'était OK de filmer leurs seins. Certaines ont dit, bah, quand tu fais une prise, préviens-moi. Enfin, elles n'ont pas appelé ça prise, hein, mais préviens-moi, je remettrai le soutif. D'autres ont dit, bah, je veux juste pas qu'on les voit de manière frontale. Il y a que Joël qui a vraiment émis aucune restriction. Et en fait, ce qui s'est passé après, naturellement, dans les jours qu'on suivit, c'est que plus on se rapprochait d'elles, plus c'est devenu nos amis, en fait. Et plus le regard est devenu naturellement bienveillant. Et je pense que de Théo, mon chef opérateur, Théo Vincent Susoni, et moi, on avait la même image de ces femmes. C'est-à-dire, on les trouvait hyper belles, hyper cinégéniques. Et en fait, on ne s'est pas trop posé la question. On les a filmées à travers notre regard, je pense. Voilà.
Mais c'est ce qui est très frappant dans le film. Et là, pour le coup, image nouvelle, c'est que ce sont des corps qu'on ne veut pas voir, en général, qu'on ne veut pas voir ni sur un film, ni dans un miroir. Il y a la question du miroir ici. Et vous les montrez à la fois comme très belles, effectivement. Il y a des très beaux plans sur leur corps, sans cacher le fait qu'il y a quand même le poids des années et la souffrance qu'elles-mêmes peuvent avoir dans leur rapport à leur propre corps. Alors, comment est-ce que vous avez tracé ce chemin entre ces deux manières de filmer les corps?
Ben, en fait, encore une fois, ça n'a pas été vraiment réfléchi, c'est-à-dire qu'on les a suivis dans leur quotidien, et en fait, il y a eu des indices au fur et à mesure, de ce rapport-là au corps. En fait, c'est pas tant que j'ai filmé un autre rapport au corps, c'est que surtout j'ai filmé la parole de cet autre rapport au corps. En fait, j'ai filmé ce rapport ambivalent que Joël avait avec son propre corps, qu'on entend dans l'extrait avant où elle dit « Ah non, moi je me regarde pas dans la glace, ah si j'étais comme ça, si j'étais riche, je serais pas comme ça, cette volonté de faire de la chirurgie esthétique, etc. » Donc à ce moment-là, moi-même, sur le tournage, je ne savais pas ce qui allait arriver. En même temps, enfin, ce que vous vivez en tant que spectateur, je l'ai vécu pareil sur le tournage. La parole chargée qui arrive plus tard, sa confession sur ce qui lui est arrivé dans le passé, les violences conjugales qu'elle a subies et qui expliquent donc ce rapport au corps d'autant plus ambivalent, même si toutes les femmes, peu importe, même celles qui n'ont pas subi de violences conjugales, la société pèse tellement déjà sur elles que c'est pas la violence qui crée ce rapport-là, mais là, elle l'est d'autant plus. Et en fait, c'est ça, c'est des petits indices qu'elle m'a laissés, c'est des petites paroles, des non-dits chargés de sens. Et en fait, j'ai eu l'impression de construire un puzzle. Et en fait, c'est vraiment au montage qu'on a pu, et on a monté un peu comme toi, un peu, en fait, on a dérushé, en tout cas, on n'a pas monté, mais tous les jours. Et c'est comme ça que le scénario, il s'est écrit un peu comme presque au théâtre, une écriture plateau. Et en fait, en mettant les choses dans l'ordre, on se disait, mais comme si on cherchait quelque chose qui n'arrivait pas, quoi. Et qui arrivait le jour où on a arrêté de tourner. Je suis partie en vacances et Joël m'a appelée et c'est là où elle m'a dit, au fait, il y a un truc que je t'ai pas dit. Moi, mon mari m'a battue. Et là, je me suis dit, mais ok. Enfin, c'était là devant mes yeux depuis le début, en fait. Et quand on a tout mis dans l'ordre, c'était tellement évident que c'est presque bizarre de pas l'avoir vue. Tellement quand elle parle au camion à une jeune fille et qu'elle lui dit, ne vous mariez jamais, ne faites pas d'enfants, etc. Enfin, je veux dire, il y a que quelqu'un qui a une histoire comme ça qui peut dire quelque chose. De ce genre à quelqu'un de plus jeune.
Oui, ben alors, vous dites scénario, c'est vrai qu'à première vue, on pourrait avoir l'impression, alors c'est pas les Québécois qui l'ont fait, mais une impression de cinéma direct, vous mettez là et elle parle, en fait, vous leur lanciez des sujets de discussion jour après jour.
En fait, oui, je pense que la notion de scénario, elle est pas juste, c'est pour ça que je parle de théâtre et d'écriture plateau. En fait, elles ont vraiment été une matière vive, avec une liberté tellement folle que, en fait, tout ce que je voyais, quand parfois on avait la caméra posée, que j'avais pas filmé, je le notais, je me le gardais en tête, je me disais, ok, il pourrait y avoir une extension ici, le soir, quand on regardait, on disait, je vais garder cette blague, ou je vais garder ce moment, mais ça serait bien que, comment il pourrait s'insérer, qu'est-ce qu'il y aurait avant, qu'est-ce qu'il y aurait après. Et donc, le lendemain, en fonction, par exemple, la scène de la chirurgie qu'on a entendue, elle l'avait déjà eue, et je leur ai juste demandé de se positionner en cercle, pour aider à l'image un peu mieux, pour que ça rentre. Et je leur ai dit de le répéter. Pareil, je pense qu'on le sent à la technique. À un moment, elles parlent toutes de leur date Badou, Tinder pour les plus jeunes. Et en fait, ce moment-là a été... En fait, j'ai demandé à chacune à leur tour de le faire, mais elles me l'avaient déjà dit, mais elles l'ont rejoué encore mieux, en fait, que la vraie vie. Donc, c'était génial. Donc voilà, et après il y a la scène avec cet homme qui sort de l'eau, qui se caresse le torse. Je pense qu'en termes d'image, on voit que du coup c'est hyper
oui,
fabriqué.
Oui, c'est affiché, la mise en scène est affichée. Oui.
Exactement, mais moi mon but ici, c'est qu'en fait, à force de traîner avec Joël et de voir comment elle dragouillait les hommes sur la plage, et à la fois, tout en ayant ce rapport ambivalent de critiquer les maris des autres et de ne pas vouloir de mec. Hein. Mais je me suis dit, c'est drôle, on dirait une teen, enfin on dirait une ado. Enfin, on a ça quand on est ado, on aime, on veut pas burk les garçons, burk. C'est ça, quand elle embrasse, sa copine embrasse, l'autre Joël embrasse Laurent, Joël dit je vais vomir et tout. Donc voilà, et je me suis dit, je vais lui créer une scène de teen movie en fait. Elles me font rire, je vais les faire rire. Donc j'ai appelé mon oncle, je lui ai dit, tonton, descends au bain des dames, j'ai une mission pour toi. Et il est venu et il l'a fait.
Alors, j'aime beaucoup que vous parliez de théâtre parce qu'il y a une citation très directe de Pagnol dans votre film de la scène des cartes dans Marius. J'ai pensé aussi à Guitry et à toute cette tradition romère, etc., qui est très française de cinéma parlé. Et vous avez un grand bonheur à filmer la parole.
Bah, je pense que moi aussi, je suis une bazarette hein, déjà. Et je pense que, à l'inverse de toi, du coup, je ne sais pas imaginer un film sans parole, en fait. Et à la fois, je peux m'ennuyer aussi dans un certain cinéma français d'appartement sous Xanax où on fait que parler. Donc voilà. Donc il faut que ça parle, mais il faut que ça soit utile. En fait, c'est ça. C'est pas parler pour parler. Là, pour moi, la parole était rare. Malgré le côté en apparence trivial, je pense qu'il y a des gens qui pourraient s'arrêter au caractère trivial de la parole, mais ça l'est pas. Des femmes de 70 ans qui parlent de sexe alors qu'elles sont estampillées grand-mère et qui ne parlent pas une seule fois de leurs petits-enfants. Enfin, c'est à l'opposé de ce qu'on attend. Voilà.
Alexandre Dosti, vous qui avez fait un film très taiseux et très masculin pour le coup, comment est-ce que vous avez entendu ces magnifiques femmes?
Ah ben j'avais, je faisais partie de la bande. Hein? À l'écoute du film, je pense que c'est cet effet-là de nous amener dans la conversation, de nous mettre à l'aise, de sentir aussi cette complicité-là que t'exprimes, tu sais, qui s'est rapidement déployée au moment du tournage. Vraiment, ça transparaît, puis je trouve que ça participe, je veux dire, à l'expérience du film. Moi, c'est ce qui m'a charmé, puis ça m'a rappelé aussi ce que j'aime de l'humain, tu vois. On parle de femmes qui habitent leurs contradictions. Moi, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus beau chez nous, les humains, puis où on peut se retrouver aussi, puis d'être témoin de ces contradictions-là dans une genre de liberté de les exprimer. Je sais pas, je trouve que ça met en joie. J'ai vraiment aimé ça.
Margot Fournier, c'est un film très accueillant, effectivement, hein, pour le spectateur. Luc Caminier, un tout petit dernier mot, vous l'avez vu vous aussi ce film?
Je l'ai vu et j'ai beaucoup, beaucoup aimé, effectivement, pour l'acte politique et la libération, justement, de la parole de ces femmes. Vraiment, c'était très beau.
Margot Fournier, un dernier mot?
Je suis très contente que les filles aient pu avoir leur moment à la radio, parce que même si elles n'étaient pas avec nous, elles ont pris la parole sur France Culture. Et je tiens juste à dire, oui, que c'est incroyable ce qui nous arrive. Là, on est nommé au César avec les filles sur un film, voilà, fait comme ça, d'humain et d'instinct. Voilà.
Et on vous souhaite le meilleur.
Merci.
Merci Margot Fournier au Bain des Dames. C'est lui aussi en compétition nationale au Festival international du court-métrage de Clermont-Ferrand. C'est dans le programme F5, première projection ce soir à 22h dans la salle Horizon de la Comédie. On espère donc vous voir bientôt avec une grosse statuette en main. Le festival se poursuit jusqu'au 7 février avec en plus des compétitions un focus sur l'Asie du Sud-Est et une rétrospective thématique sur les vacances où on peut notamment redécouvrir les jeux de plage de Laurent Canté qui préfigure son dernier film posthume, Enzo. Il y a aussi les grandes vacances de Valentine Cadic où s'invente le personnage qu'interprétera la toujours géniale Blandine Madec dans Le Rendez-vous de l'été, ou encore les vacances d'Emmanuel Berco avec une toute jeune Isilde Lebesco. À l'occasion du festival de Clermont-Ferrand, le court-métrage est partout en ce moment. À la télévision, Court-Circuit sur Arte mettra en lumière dans la nuit du 5 au 6 février cette 48e édition avec un numéro spécial composé de films sélectionnés dans les différentes compétitions. France 2 consacrera ses histoires courtes de la nuit de dimanche à lundi à cette même édition, comme le fera Libre Cours sur France 3 dans la nuit de mardi à mercredi. J'ai dit trois fois la nuit et c'est bien, mais ça serait quand même mieux si le court-métrage à la télévision n'était pas réservé aux insomniaques. Côté plateforme, à voir à toute heure, donc Tenk mettra en ligne du 6 février au 5 juin le prix du meilleur documentaire 2025, Sortir du nid de coucou de Nicolas Illich, et trois films issus du focus Asie du Sud-Est de cette année. Quant à Bref, l'historique revue du court-métrage célèbre les 10 ans de sa plateforme Bref Cinéma, avec tout au long de l'année 2026 des cartes blanches en ligne. Des personnalités marquantes de l'histoire du court et de la plateforme seront ainsi mis à l'honneur, Alice Vinocourt, Vincent Macaigne ou encore Caroline Poggi et Jonathan Vinel. Ceci annoncé, on part pour une petite île au large de Java, et pour ceux qui y résident, c'est pas vraiment les vacances.
I presume come for your carpet.
Why will you not fight me? If you defeat me, you will be free.
Jack, I think it has taken a bit of a shine to you.
Un officier britannique bel et blond, il faut dire qu'il a la gueule de David Bowie, qui rend les armes après une tentative d'évasion face à l'officier japonais dont il y est le prisonnier, et il n'est pas mal non plus puisque c'est Ryuichi Sakamoto qui l'incarne, officier qu'il aurait volontiers affronté au sabre. C'est une scène de Furio, première excursion hors du Japon, c'était en 1983, de Nagisa Oshima, pionnier de la nouvelle vague japonaise et réalisateur à scandale de l'Empire des Sens 7 ans avant. Dans cette coproduction britanno-néo zélando-japonaise, on trouve donc, comme dans le pont de la rivière Kwai, des prisonniers de guerre britanniques dans un camp de détention japonais. Un quart de siècle après le classique de David Lean et avec un point de vue japonais, peut-on pour autant y voir un grand film humaniste sur le dialogue entre des cultures opposées? Mathieu Macheret, vous n'avez, vous non plus, pas pu faire le voyage pour Clermont-Ferrand?
Oui, ben en tout cas, il y a quelque chose de très tentant avec Furio, qui explique d'ailleurs pourquoi le film a longtemps été un des plus célèbres et appréciés de Nagisa Oshima à l'étranger. La tentation, c'est d'y voir une fable humaniste sur le dialogue des cultures qui serait rendu impossible en temps de guerre. Une sorte de méditation éclairée, comme ça, sur la rencontre un peu douloureuse de l'Orient et de l'Occident qu'il faudra, avec sagesse, remettre à plus tard. Tentant, oui, parce que le décor du film, c'est celui d'un camp de prisonniers sur l'île de Java en 1942 durant la guerre du Pacifique, où des Japonais détiennent des Britanniques, deux corps d'armée qui se regardent en chien de faïence sur la défensive, mais parfois étonnamment proches aussi, avec leur façon asymétrique, les uns d'imposer un ordre, les autres de se montrer récalcitrants et d'y résister. Au milieu de ce tableau, on a deux personnages un peu subalternes qui sont nos guides, qui nous servent de relais. Le lieutenant John Lawrence, qui est joué par Tom Conti, familier de la culture japonaise, il en parle la langue, et puis le sergent Hara, qui lui est joué par Takeshi Kitano, un réalisateur qu'on connaît bien. Et il est un brutal gardien du camp, les deux étant à la fois des témoins, des commentateurs de l'action. Entre eux, on sent qu'une entente est possible. Ils échangent la nuit, confrontent leur conception de l'honneur et de la nature humaine, et c'est par eux que passe la fable humaniste de la rencontre avortée. « Joyeux Noël, Monsieur Lawrence », lancera le second au premier, un soir d'ébriété et de brève relax, ce qui donnera son titre international au film, Merry Christmas, Mr. Lawrence. Cela, ce serait plutôt la part du signifiant, disons du scénario signé Paul Myersberg, un Britannique, d'après un roman de Lawrence van der Post, un roman anglais, sur proposition du producteur anglais Jeremy Thomas, à qui l'on doit Le cri du sorcier de Skolimowski, par exemple, ou Eureka de Nicolas Roeg. Or, on peut le dire, Nagisa Oshima n'était pas un cinéaste humaniste. Au contraire, l'enfant terrible de la nouvelle vague japonaise a plus d'une fois démontré ce mélange de sécheresse, de cruauté et de sophistication formelle qui le caractérisait dans des films particulièrement impitoyables comme Le Petit Garçon, La Cérémonie, La Pendaison, L'Enterrement du Soleil, pardon, les titres sont assez évocateurs. Mais ça, c'était pour son œuvre spécifiquement nippone. Furio, lui, correspond à la dernière phase de sa carrière, lorsqu'Oshima, après s'être réfugié un temps dans le documentaire pour la télévision, un peu comme son confrère Shohei Imamura, revient au long métrage en se tournant vers des financements internationaux. Ce sera la période des coproductions. Furio, c'est l'antépénultième film d'Oshima, le premier qu'il tourne hors de l'archipel, et aussi, voilà, un film complètement déterritorialisé. À ce titre, il faut pas croire que le cadre du camp de prisonniers met en regard deux civilisations étrangères, de grandes abstractions culturelles. Non, ce qui est mis en regard ici, dans le camp, ce sont deux exceptions, deux territoires un peu à part. Le Japon et l'Angleterre, deux cultures insulaires, deux isolationnismes, deux rituels singuliers, deux formes d'utopie et deux gestes qui ne s'assimilent pas aux cultures continentales. L'essentiel chez Oshima, ça se passe souvent à la surface, sur la peau. Il les a filmés mieux que quiconque. Surface politique par excellence, fine pellicule et frontière élémentaire, un dernier rempart qui sépare l'individu de la société. Cet épiderme, c'est le lieu des frictions et des caresses, le lieu du rapport par excellence, qu'il soit de force ou de désir. Et dans Furio, c'est là que ça se joue, sur la peau. La différence des couleurs de peau, bien sûr, qui est rudement exhibée dès le départ, dès la première scène, hein, où on met au jour un viol commis par un gardien sur un prisonnier. Les deux hommes sont allongés sur l'herbe, les peaux sont marquées par les ecchymoses ou les lacérations, les coups reçus. Il y a le stigmate rendu visible de la sexualité entre hommes pendant la guerre. Le cœur du film réside dans cette confrontation, et une autre confrontation encore plus importante, cette fois entre deux personnalités aristocratiques qui se flairent et se tournent autour. D'une part, un prisonnier, Jack Sellier, qui est transféré dans le camp, et de l'autre, le capitaine Yonoy, le directeur inflexible du camp, qui éprouve une attirance pour ce nouvel arrivant. Tous les deux sont joués par des superstars de la pop mondiale, David Bowie d'un côté, Ryuichi Sakamoto de l'autre, qui font dévier l'interprétation vers une forme d'iconisme incandescent. Sellier, il a cette blondeur irréelle, presque provocante, tandis que Yonoy, il a toute la rigueur du corps samouraï, et il semble, à chaque apparition, étrangement fardé. Friction des regards, trouble dans les interstices du code militaire, pas de deux de la rébellion et de la répression, corps qui s'admire par leur rigidité intenable, toute une cérémonie homo-érotique. Koshima travaille par de longs plans scénographiques. La guerre, c'est une réalité, mais c'est aussi un espace abstrait, un territoire de projection avec son fétichisme, ses fantasmes, ses uniformes, sa promiscuité et le désir de s'approprier la force de l'autre. Alors bien sûr, il y a la musique extraordinaire signée par Sakamoto lui-même, le cérémonial contrarié du camp, les longs travelling suspendus d'Oshima, puis des scènes perdues dans une nuit bleutée. Il y a surtout un flashback au cœur du film qui prend le risque de le déséquilibrer complètement sur l'enfance de Jack Sellier, David Bowie et la honte qu'il eut un jour de trahir un petit frère bossu. Tout le film est là. Système de production des élites britanniques, eugénisme et mœurs grégaires qui n'ont rien à envier au Japon nationaliste fanatisé par la figure de l'empereur. Furio ne raconte pas la rencontre des cultures. Il montre ce qu'elle fabrique de plus intime quand elle se regarde en face. La honte, le désir, l'impossibilité d'y survivre.
Mathieu Macheret, Furio de Nagisa Oshima, c'est à voir en copie restaurée et en Blu-ray chez Metropolitan Film. Plan large, c'est fini. Pour aujourd'hui, à la prise de son à Clermont-Ferrand, Céline Bonhomme-Monge et Loïc Frenéa. Et à Paris, Nicolas Leroulé et Dali Yaha. Merci infiniment aux équipes d'ici Clermont-Ferrand pour leur très chaleureuse aide technique et à la Comédie de Clermont pour son accueil. Et puis on salue évidemment Inès et Henri. L'émission était préparée par Anne-Vanessa Prévost et Léa Varin et réalisée par Anne-Laure Chanel.